Bonjour à tous et bienvenue dans le Labomatique sur Radio Campus Rennes, l'émission Science et Recherche. Le week-end dernier, le 11 et 12 avril, s'est tenu à Rennes, au TNB, le Forum Libération. Cette année, il nous était demandé de nous projeter dans le futur, et plus précisément en 2030. À quoi donc ressemblera le monde dans 15 ans? C'est la question que le Labomatique a posée à différents intervenants, qu'ils soient chercheurs, activistes ou encore responsables d'ONG. Et on a beau être spécialiste, il n'est pas facile d'anticiper l'évolution de sa discipline. Et le premier à répondre à nos questions est Jean-Louis Feuillus, ancien responsable des programmes d'observation de la Terre au CNES, à qui on a demandé de prédire le climat pour 2030.
On est sur une courbe actuellement ascendante pour ce qui concerne la température moyenne à la surface de la Terre, sur l'élévation de niveau de la mer, 3 mm par an en plus, en moyenne, un peu plus même, sur la fonte des glaces sur l'océan Arctique pendant l'été, sur un tas d'autres paramètres représentatifs de l'environnement. Et comme l'ont montré les courbes du GIEC, dont celles qui ont été montrées par d'autres personnes tout à l'heure pendant une conférence, quoi qu'on fasse aujourd'hui, l'inertie est telle dans ce système climatique que rien ne changera dans les 20 prochaines années, en gros. Donc si on extrapole les courbes actuelles jusqu'en 2030, on peut dire qu'il n'y aura plus de glace au-dessus de l'océan Arctique pendant l'été, que le niveau de la mer aura augmenté de 6-7 cm. Ça peut représenter, en termes de compréhensible, parce que 6-7 cm, on peut se dire qu'il suffit d'élever un petit peu les digues et c'est rien du tout, mais non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que les côtes basses pourront être submergées plus facilement, en particulier dans les questions de tempête ou de marée particulièrement haute. Et donc, on estime au niveau du commissariat des Nations Unies aux réfugiés que ça représente plusieurs dizaines de millions de réfugiés climatiques pour les gens qui vivent simplement dans les zones côtières. Bon, il y a d'autres impacts. Donc c'est des choses qui sont d'importance massive qui peuvent se produire dans les 20 prochaines années. Et il faut s'y préparer. Mais surtout, il faut commencer à agir parce qu'on a quand même la possibilité et l'urgence d'agir sur le changement climatique maintenant. Parce que les effets arriveront certainement dans 10 ans, dans 20 ans, si on fait quelque chose. Mais si on ne le fait pas maintenant, ça sera simplement encore pire.
Que attendre du sommet de l'ONU qui se tiendra à Paris en 2015 sur le climat, justement?
Alors, la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique, qui se tiendra à Paris en 2015, elle devrait faire mieux, espère-t-on, que ce qui s'est produit dans les précédentes années à Copenhague, à Durban, etc., où on n'a abouti à aucun accord global, parce que il y a un désaccord fondamental qui persiste entre les pays développés qui sont à l'origine du problème, puisque c'est eux qui ont essentiellement induit les premières étapes du changement climatique par l'utilisation de combustibles fossiles, et les pays en développement qui disent qu'ils ont, d'une part, ils aimeraient améliorer leur niveau de vie, ils ne voient pas de raison d'être punis par le fait qu'ils ont commencé plus tard que les autres, et d'autre part, qui demandent à être aidés pour passer à l'emploi de technologies plus évoluées, pour protéger leurs forêts dans le cas des États où la forêt est menacée, pour améliorer leur économie en utilisant des énergies non renouvelables et non plus des énergies fossiles, etc. Donc derrière tout ça, il y a des questions qui concernent des gros sous, si vous voulez. Qui va payer combien pour que l'ensemble du monde avance vers un système un peu plus durable.
Et justement, est-ce que certains gouvernements pourraient voir le réchauffement climatique d'un bon œil, entre guillemets? Je veux par exemple parler du Canada et de la Russie qui pourraient tirer profit du passage dans le Grand Nord qui pourrait être ouvert tout le long de l'année.
Oui, il y a ça pour ce qui concerne la circulation dans les régions arctiques, mais ça concerne quelques semaines par an. C'est certainement intéressant pour certains pays riverains de l'océan Arctique de se dire qu'ils vont pouvoir exploiter des ressources. Quand on fait le calcul et qu'on regarde les risques que ça représente pour l'environnement et aussi pour les gens qui devraient aller travailler dans ces régions-là, on hésite un peu plus à le faire. C'est pas aussi simple. La deuxième chose, c'est que beaucoup de pays, par exemple Poutine, il y a quelques années, a déclaré le changement climatique, mais c'est très bon, ça va augmenter les surfaces cultivables, on va augmenter notre production de blé, c'est formidable. Bon, c'est vrai ça aussi, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que quand on fait les modélisations de la production agricole pour le futur, on s'aperçoit qu'on y gagne pendant un moment, et puis très vite après ça, on y perd. Et même on y perd beaucoup. Donc, faut pas faire de ce genre de pari. Bien sûr, il peut y avoir des gagnants et des perdants dans le changement climatique, mais ils ne sont jamais gagnants très longtemps.
C'était Jean-Louis Feuillus, ancien responsable des programmes d'observation de la Terre au CNES. La dernière partie du cinquième rapport du GIEC sur le climat est sortie cette semaine, alors n'hésitez pas à le consulter sur Internet. Et en parlant d'Internet, la transition est toute faite avec la seconde interview. Il s'agit d'Okin, un hacker agissant au sein de Telecomics, groupe d'activistes connu notamment pour avoir rétabli des connexions Internet lors de la révolution égyptienne en 2011 ou encore pour avoir mis à mal le système de censure syrienne. Comment voit-il Internet en 2030 ? Est-il optimiste, pessimiste ? Okin nous donne sa vision des choses.
Ça dépend vraiment des gens. Faut bien voir que Internet, c'est un réseau de gens. Donc ça dépend de ce que veulent en faire les gens. Si on le laisse, si on part sur notre lancée actuelle sans rien faire, à laisser faire, ouais, on va avoir une vision pessimiste, on va avoir une vision où tout le monde sera connecté sur 5 sites web, où l'État aura toutes nos données, aura accès à toutes nos données. Mais à côté de ça, il est aussi possible d'utiliser Internet pour faire tellement d'autres choses, pour créer des communautés, pour créer des nouveaux systèmes de société, pour réfléchir à d'autres formes de société, et pour pouvoir s'organiser et reprendre le contrôle de la rue, qu'on a un peu tendance à avoir oublié en France. On fait de la politique sans aller dans la rue, donc du coup ça marche pas. Donc voilà, c'est vraiment compliqué à prédire, parce que ça va dépendre de est-ce qu'il va y avoir l'étincelle qui va mettre le feu, qui va réveiller la flamme chez les gens, et que les gens vont dire non mais stop, ya basta, comme ils disent en Espagne, on en a marre, on va faire autre chose.
Nos données sont immatérielles, en plus elles sont codées dans un langage que la plupart d'entre nous ne comprennent pas. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on s'en fiche un peu au final des données qu'on laisse ? On sait qu'on en laisse, mais on s'en fiche ?
Non, alors je pense qu'il y a plusieurs problématiques derrière, c'est des problématiques sociales, c'est toujours une problématique sociale. Et une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un outil technique ne pourra pas fixer une problématique sociale. Il peut aider à régler un problème politique, mais il ne peut pas régler un problème social. Je travaille pour une ONG, on a des gens qui vont sur le terrain pour collecter des témoignages dans des zones, je ne vais pas dire des zones de guerre, on est plutôt sur l'après nous, mais on est quand même dans des zones où ce n'est pas forcément évident, et qui y vont avec un iPhone. Voilà, un iPhone qui est quand même un appareil que tu ne contrôles pas, que tu ne maîtrises pas, que tu ne sais pas ce qu'il fait, qui va communiquer ta position à Apple plusieurs fois par jour, ainsi que le contenu des données que tu récupères. Alors, quand tu tapes sur un pays allié des États-Unis, ça va ? Là, tu vas en Iran, t'as pas trop ce problème-là. Quand tu te dis, tiens, j'irais bien faire un truc genre à Guantanamo ou pour donner un coup de main, ou ce genre de choses-là, ça peut poser un peu plus de problèmes. Et je pense qu'on a accepté. Il y a des gens avec Apple ou Google qui sont venus nous dire en nous disant, faites-nous confiance, on s'occupe de tout. Et donc, nous avons abandonné le contrôle de nos vies à ces gens-là.
Et donc, que faire pour maîtriser à la fois les technologies et en même temps nos données ?
Alors, tu ne peux pas forcément maîtriser tes données. Je veux dire, là, le fait qu'on soit tous les deux assis sur ce banc, c'est déjà de la métadonnée. Si, tu vois, il y a une caméra qui nous surveille, donc il y a un vigile qui sait qu'on est en train de parler. Il ne sait pas de quoi on parle, mais il sait que moi, je suis en train de parler à un journaliste. Ce qui pourra être récupéré plus tard, par exemple, par l'organisation qui exploite le Théâtre National de Brest, et donc éventuellement l'État, au final. Il faut bien perdre de vue qu'à partir du moment où tu communiques, tu échanges des données, ces données peuvent être récupérées, interceptées, analysées, retournées contre toi, ou retournées avec toi. La seule chose que tu peux faire, c'est essayer de reprendre du contrôle sur ces appareils pour qu'ils n'émettent des données que quand tu as envie qu'ils en émettent. La seule chose pour ça, c'est de sortir du carcan du logiciel propriétaire. Du logiciel que tu ne peux pas modifier. Le logiciel libre, c'est un logiciel qui respecte quatre libertés fondamentales qui sont extrêmement simples. La première, c'est la liberté d'étudier le code. Donc, j'ai le code source écrit dans un langage que je peux, moi, humain, comprendre ou apprendre à comprendre. Ce n'est pas du langage binaire de machine. Je peux lire ce qu'il fait. La deuxième liberté, c'est j'ai la possibilité de modifier ce code. C'est-à-dire que, il y a quelque chose que je n'aime pas, je le modifie. La troisième liberté, c'est la liberté d'exécution de ce code, de ce programme. C'est-à-dire je peux l'exécuter n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, sur n'importe quelle machine, comme je l'entends. Ce n'est pas parce que j'ai acheté un CD que je ne dois pouvoir le lire que sur ma chaîne audio et pas dans mon lecteur de voiture. Ce qu'on essaie de nous faire vendre en ce moment avec les DRM. Donc c'est la liberté de pouvoir exécuter ce code comme on l'entend. Et la quatrième liberté, et qui est une liberté extrêmement importante, c'est la liberté de rediffusion. C'est-à-dire j'ai le droit de diffuser le code que j'ai récupéré, comme je l'entends, incluant mes modifications, qui permet donc de diffuser ce code-là. Ce qui permet, par exemple, là on a eu un bug, un gros bug qui s'appelle Earthbleed, qui est sur la SSL. SSL, c'est le système de chiffrement et de sécurité qui est au cœur de la sécurité sur Internet, on va dire ça comme ça pour simplifier outrageusement. Donc Earthbleed, c'est une faille qu'il y a dans OpenSSL. Donc OpenSSL, c'est une implémentation libre de ce protocole. Et tout le monde fait « Ah mon Dieu, c'est catastrophique !» Oui, effectivement, les dégâts faits par cette faille sont assez monstrueux. Il faut quand même bien voir que le bug a été publié un soir à 23h30, mais ils ont eu cette réaction, c'est-à-dire qu'entre le moment où le bug a été divulgué et le moment où il a été réglé sur une bonne partie des machines, où il a pu être réglé sur une bonne partie des machines, il s'est passé moins de 24 heures. Quand tu prends la faille GoToFail, qui est une faille dans le même genre de librairie sur Apple, qui est à peu près au même genre de niveau de sécurité et d'insécurité, quand la faille a été publiée, ils ont mis 4 jours avant de mettre un patch. Et en plus, en dissimulant le fait que ce patch corrigeait cette faille. Donc genre, non, c'est pas vrai, il n'y a jamais eu de faille, on a juste fait un patch normal. Microsoft, ils ont souvent parfois plus de 2 semaines avant de patcher. Donc le logiciel libre te permet d'avoir cette rapidité de mettre à jour ton système. Ça te garantit pas la sécurité. Il y a une seule chose qui te garantit la sécurité. C'est facile, c'est un système dans lequel tu es protégé des agressions extérieures, dans lequel on te garantit à toi, dans lequel on te garantit 3 repas par jour, et dans lequel on te garantit un certain accès à l'information. Ça s'appelle la prison de la santé. À partir de là, à partir du moment où tu refuses de vivre en prison, tu prends un risque, mais t'es libre.
Et dernière question, quel conseil du coup donner aux internautes aujourd'hui pour justement essayer de contrôler ce qu'ils peuvent contrôler ?
Déjà, je leur dirais bien d'aller dans la rue un peu, sortir. Pas forcément du recul, mais de réfléchir à ce qu'ils font. Utiliser du logiciel libre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous n'avez pas de bonne raison de ne pas utiliser de logiciel libre. Ça coûte rien, quoi, en plus. Et ouvrez un bouquin d'informatique pour débutants, au moins une fois. Apprenez comment marche Internet. Apprenez ce que c'est qu'un protocole réseau. Il n'y a pas besoin d'être. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en informatique. Il y a juste besoin de savoir, OK, c'est quoi un système d'exploitation? C'est quoi un processeur? C'est quoi un ordinateur? C'est comme quand tu as une voiture, je veux dire, tu as une voiture, tu sais faire le plein d'essence, tu sais changer un pneu, tu sais checker ton niveau d'huile. Voilà. Apprenez à faire ça sur vos machines, sur vos ordinateurs, sur vos téléphones, tablettes, ordinateurs connectés, intelligents ou stupides. C'est juste ce qu'il faut apprendre. Un petit peu de curiosité. Ça ne tuera personne et ça vous donnera tellement plus de contrôle et de pouvoir. Je veux dire, Internet donne un peu plus de pouvoir au gouvernement, aux États oppresseurs, certes. Mais il donne ce même montant de pouvoir qu'il donne en plus aux États, il le donne à chaque individu. Donc, individuellement, ça ne fait rien, mais si on se met tous ensemble, on a énormément plus de pouvoir et on peut aller taper sur le gouvernement, ou les entreprises, ou ce qu'on a envie de taper dessus.
Si Internet a permis un échange de flux partout dans le monde, qu'en est-il des flux humains ? Le Labomatic a demandé à Catherine Vitole de Venden, politologue et spécialiste des migrations, de dresser le portrait des migrations dans le monde en 2030.
Alors je pense qu'il y aura des choses nouvelles, c'est-à-dire la dimension démographique, par exemple des géants comme l'Inde, qui sera le pays le plus peuplé du monde, la Chine qui vieillira mais qui sera encore très peuplée, l'Afrique qui avoisinera les 2 milliards d'habitants. Donc en fait, on va avoir des changements importants en termes de démographie. En termes de structure du marché du travail, pour l'instant, c'est difficile à dire, sauf si on a vraiment une sorte de révolution technologique et du côté des matières, notamment de tout ce qui est pétrole, etc. Pour le reste, on va plutôt poursuivre une sorte de migration lente et continue pendant cette période. Ce qui va peut-être s'accélérer, c'est la construction d'espaces de circulation régionaux. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'espaces régionaux, beaucoup fonctionnent mal. Mais peut-être que pour accélérer le commerce, mais aussi la mobilité des personnes dans des espaces à l'échelle mondiale, ça peut être par exemple le cône sud latino-américain, ça peut être l'Europe avec la rive sud de la Méditerranée, ça peut être toute une série de lieux qui fonctionnent déjà plus ou moins bien en termes de mobilité. Peut-être qu'on aura un petit peu avancé du côté des espaces de circulation régionale qui faciliteront quand même la fluidité de la circulation. Puis on aura de plus en plus de diplômés qui bougent ou qui veulent bouger, aussi bien du sud au nord que du nord au sud.
Concernant ces jeunes diplômés, est-ce que du coup, ça sera des jeunes diplômés différents ou alors est-ce que ça sera plus marqué dans certaines zones géographiques ? Est-ce qu'il y aura aussi plus d'égalité entre les jeunes diplômés du nord et jeunes diplômés du sud ? Parce que souvent, c'est vrai que les jeunes diplômés du nord peuvent peut-être plus se mouvoir que les jeunes diplômés du sud.
Oui, c'est vrai, pour l'instant, les jeunes diplômés du Nord peuvent circuler, ce que ne peuvent faire que parfois difficilement ceux du Sud, qui sont soumis à des visas, quel que soit leur projet. Mais comme le Nord a aussi besoin des diplômés du Sud, de plus en plus, les politiques migratoires s'en trouvent aux très qualifiés. Donc on va peut-être avoir beaucoup plus de liens, d'interconnaissances entre les diplômés du Nord et du Sud à l'échelle de la planète, et également une population de plus en plus urbaine, de plus en plus scolarisée au Sud, qui favorisera aussi l'aspiration à la mobilité.
Et alors une dernière question sur la citoyenneté. Vous avez évoqué lors de votre conférence le fait que les migrants ne se déplacent pas forcément pour s'installer dans un pays, mais se déplacent aussi pour rester juste une petite partie du temps. Alors est-ce que ça impose un regard différent sur leur citoyenneté, sur la citoyenneté de ces personnes qui ne vont pas forcément rester longtemps? Et alors comment on peut les impliquer en fait dans la vie de la cité, notamment par des biais électoraux ou par d'autres voies?
Ben, je pense qu'il faut déjà étendre le droit de vote aux étrangers non communautaires. Aujourd'hui, il y a 15 pays européens qui ont donné le droit de vote et l'éligibilité ou pas, selon les cas, aux non communautaires. La France en parle depuis 30 ans, mais ça n'a toujours pas été accordé. Je pense que ça, ce serait un progrès pour impliquer les gens dans la vie locale de leur lieu d'habitation. D'autre part, si on étend les possibilités de double nationalité, on aura de plus en plus de gens qui pourront vivre ici, là-bas. Si on donne davantage de statuts avec des cartes de résidents renouvelables, on aura aussi des gens qui vivent ici, là-bas. Si l'ensemble des retraités ont accès à tous leurs droits, quel que soit le lieu où ils vivent, on aura aussi des phénomènes de vie ici, là-bas. Donc il y a des progrès à faire pour que, précisément, il y ait plus de fluidité. Et c'est ce à quoi aspirent les gens. Ils ne cherchent pas tous à venir s'installer chez nous définitivement.
C'était Todd Terrier avec le titre Inspecteur Norse. Vous êtes toujours sur Radio Campus Rennes dans le Labomatique pour ce numéro un petit peu spécial consacré au forum Libération. Après avoir parlé climat, internet et migration dans la première partie, nous avons interrogé Pierre Tambourin, biologiste et directeur du Génopôle, pour discuter du futur de la génétique. Il nous explique d'ailleurs tout d'abord ce qu'est le Génopôle.
Le Génopôle est un lieu où se développent des recherches en génétique, essentiellement, génétique humaine, c'est-à-dire celle qui décide à comprendre comment se développent ces maladies, et aussi un endroit où se développent des entreprises innovantes, comme nous disons, c'est-à-dire des entreprises dans lesquelles se fabriquent les médicaments du futur.
Le thème de cette année du Forum Libération est 2030. Comment voyez-vous votre domaine, la génétique, en 2030 ? Quelles avancées vous attendez ?
Alors, en 2030, ce qu'on peut prédire, sans risque de se tromper, mais c'est toujours très difficile cet exercice, parce qu'on se trompe souvent, c'est de dire que la plupart des maladies génétiques rares seront traitées. Ça me paraît quelque chose de clair. Et c'est un énorme progrès. Deuxièmement, on aura une médecine régénérative permettant réellement de traiter des pathologies qui, pour l'instant, n'avaient pas de solution. Je vais penser, par exemple, pensons simplement à une maladie qui s'appelle la section de la moelle épinière, c'est-à-dire celle qui rend paralysée. On pourra probablement, ça j'en suis moins sûr, trouver des traitements pour cela grâce à cette médecine régénérative. Et puis on aura la capacité d'utiliser les données génétiques de chacun de nous dans le cas du cancer, dans d'autres pathologies. Donc le paysage de la médecine de demain va radicalement changer par rapport à tous ces développements.
Et toutes ces améliorations en génétique, sur notamment les connaissances de notre génome, ne risquent-elles pas d'entraîner une nouvelle forme d'eugénisme ?
Oui, il y a toujours ce risque, bien entendu. Il y a toujours des gens qui pensent que l'homme pourrait être amélioré de cette manière-là. Je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait placer ce genre de volonté au banc de l'humanité, c'est-à-dire interdire strictement d'utiliser des gènes, non pas pour guérir, mais pour améliorer, car on ne sait, d'abord sur le plan des principes, c'est contraire, me semble-t-il, à la dignité de l'homme et de l'espèce humaine, puis sur le plan pratique, franchement, on ne sait pas du tout quelles seraient les conséquences à long terme.
Alors du coup, que penser de la biologie de synthèse qui se développe de plus en plus ces dernières années ?
Alors la biologie de synthèse est une vraie nouvelle révolution en matière de biologie. Elle a deux aspects. Un aspect fondamental qui vise à mieux comprendre comment s'organisent et travaillent ensemble les informations génétiques. Et puis elle a un deuxième aspect qui est plus intéressant du point de vue industriel, qui est d'utiliser des micro-organismes pour leur faire faire des tâches très complexes, beaucoup plus complexes. Par exemple, synthétiser des médicaments qu'on trouve dans des plantes mais qu'on ne sait pas synthétiser par voie chimique et demander à une bactérie, en lui injectant les gènes des plantes en question, de fabriquer le même médicament. Voilà un des aspects de la médecine de synthèse, mais il y en a beaucoup d'autres, traiter des problèmes environnementaux particuliers, etc.
La question qui vous était posée dans la conférence était: la santé une recherche sans limite ? Est-ce que le temps pourrait faire partie de ces limites, puisqu'on sait que dans la recherche médicale, il y a besoin de beaucoup de tests, et qui pourrait parfois freiner cette recherche ?
Oui, le temps et l'argent d'ailleurs. Par exemple, l'AFM aujourd'hui, a face à elle, l'Association française contre les myopathies, grâce à ses progrès, a devant elle au moins une trentaine de possibilités d'essais thérapeutiques chez l'homme, chez des hommes atteints de maladies génétiques graves, dans des maladies différentes, et se demande comment assumer le coût de tout cela. Le temps qu'il faut n'a pas assez de chercheurs, et évidemment qu'il y a là des limites d'ordre éthique et politique qui sont considérables et difficiles à régler.
Comme vient de le souligner Pierre Tambourin, la science et la politique peuvent être parfois liées. C'est le cas notamment au sein de l'ONG Green Cross, France et Territoire. Nicolas Imbert en est le directeur et nous parle des deux types d'actions que mène cette ONG.
Deux types d'actions. Des actions de plaidoyer où on sensibilise aux enjeux liés à l'accès à l'eau, à l'alimentation, à l'énergie et à la nécessité de protéger ces ressources pour vivre sereinement sur les territoires. Et puis aussi les projets où, un petit peu comme le colibri, on joue notre part du sujet et on regarde par exemple comment il est possible de produire durablement du porc, du cochon en Bretagne sans générer d'algues vertes, en ayant une viande de qualité, un agriculteur qui vit bien de sa production, ou alors des projets sur l'efficacité énergétique, l'autonomie des îles, l'accès à l'eau dans des zones désertifiées. Ce sont ces projets qui donnent de la crédibilité à nos actions de plaidoyer.
Et durant la conférence, vous avez mentionné que l'océan était malade. Comment configurez-vous cette image, en fait, en quelque sorte ?
L'océan, en fait, est très important dans son rapport à l'humanité parce que c'est lui qui nous permet de respirer, qui contribue aussi au fait que l'on puisse manger. Donc le fait qu'il soit malade est grave. Il est malade parce qu'on l'a pollué. On a des pollutions d'origine plastique, on a des macropolluants sur lesquels la pollution qu'on retrouve dans l'océan, c'est une pollution qui provient de la Terre. Donc là, il est facile de ne pas polluer à terre, mais il va falloir aussi aller récupérer ces continents de plastique et les traiter pour éviter qu'ils ne finissent dans l'estomac des poissons. Il y a une autre pollution beaucoup plus pernicieuse qui apparaît, c'est la pollution qui est liée aux micropolluants, aux perturbateurs endocriniens et au fait qu'on rejette tout et n'importe quoi dans l'océan. Et une troisième source de pollution qui est qu'on a utilisé l'océan comme un chéquier ouvert en pêchant, en surpêchant, en pêchant des espèces qui avaient une durée de vie relativement longue. Donc il faut imaginer des poissons fossiles alors qu'on avait la possibilité de manger des poissons plus petits, de manger des coquillages, de diversifier nos alimentations aussi pour des algues. Donc sur chacun des sujets, oui, l'océan est malade et en même temps, on a des perspectives de solutions. Il faut les mettre en place et il faut avoir un comportement plus conscient et plus responsable vis-à-vis des océans. Ça passe par une meilleure connaissance. Il y a une urgence à bien agir et une urgence à bien comprendre. Et l'urgence est double. Donc l'urgence de la situation par rapport au bien agir, c'est effectivement de regarder comment faire évoluer notre alimentation et de moins polluer. L'urgence par rapport au bien comprendre, c'est de ne pas aller tête baissée chercher à exploiter l'océan comme un nouvel Eldorado, mais de regarder comment la vie se comporte dans l'océan. Il y a 5% des espèces dans l'océan simplement qu'on connaît, il y en a 95% à peu près qu'on ne connaît pas et qu'il va falloir découvrir. Et une fois qu'on les aura découverts, ne pas chercher à les exploiter, mais chercher à regarder comment cohabiter avec elles.
Pendant la conférence, vous avez parlé d'une surpêche qui pourrait s'améliorer dans le futur. Par quels moyens pensez-vous qu'elle pourrait s'améliorer ?
La pêche a déjà commencé à s'améliorer dans des endroits comme l'Alaska qui ont mis en place des pêches durables, des pêches contrôlées et des pêches qui sont efficaces. Aujourd'hui, quand on va en mer, on y va avec des bateaux et des technologies qui sont des technologies relativement anciennes qui mobilisent énormément d'énergie pour pêcher du poisson dont un tiers en fait ne correspondait pas à ce qu'on voulait pêcher, ne pourra pas être valorisé économiquement. Un autre tiers ne finira pas dans un estomac humain, mais finira en coproduit pour l'alimentation animale et les cosmétiques. Et un tiers seulement finira dans l'estomac humain. Donc si on arrive à pêcher moins, mais à pêcher à la demande, à avoir des bateaux de pêche qui soient des bateaux de pêche modernisés, qui ont moins besoin de carburant, à regarder ce qu'il est possible de faire pour avoir de l'aquaculture responsable, on peut, comme ceci, continuer à préserver notre lien alimentaire à la mer, mais pêcher raisonnablement. Et c'est aussi une réalité, un enjeu économique, c'est-à-dire que de nombreux pays ont déjà commencé à s'inscrire dans cette approche-là. La France ne pourra pas continuer éternellement à avoir une pêche subventionnée qui génère des difficultés pour les pêcheurs et qui génère aussi des difficultés sur le milieu et à oublier à mettre de côté toute la petite pêche artisanale qui est celle qui fait vraiment vivre le littoral.
Une petite dernière question pour la fin, pour revenir au sujet de la conférence, serait-il possible d'habiter les océans en 2030 ou est-ce juste une utopie ?
Il y a deux choses, il y a l'habitat temporaire et l'habitat durable. On pense que d'ici à 2030, il va y avoir de plus en plus d'habitats temporaires sur l'océan. Des gens qui vont partir explorer, des gens qui vont partir en vacances, d'autres personnes qui auront un travail qui sera de plus en plus lié au monde maritime et qui se passe sur l'océan. L'habitat permanent est quelque chose qui est un petit peu utopique à ce stade, et il ne faudrait pas qu'on utilise l'habitation des océans parce qu'on a détérioré la planète à terre et que la planète est devenue invivable. Ça, c'est la solution ultime de l'arche de Noé, ça ne marchera que pour un petit nombre de personnes. Par contre, sur l'habitat temporaire, le fait de connaître, séduire et sensibiliser, on voit un projet émerger qui est assez génial, qui s'appelle Sea Orbiter. C'est une sorte de grand sabre posé sur l'océan qui permet de voir dessus et dessous l'océan et qui vit de manière autonome et qui permet à des scientifiques de mieux comprendre le milieu et de mieux communiquer sur ce qu'ils voient. Et c'est aussi ces quelques habitants et ces quelques pionniers un petit peu avant-gardistes qui vont nous permettre d'habiter demain sereinement et quand on en a besoin à l'océan, mais ça ne sera jamais un pis-aller à la vie sur Terre.
Comme l'a dit Nicolas Humbert, on ne connaît que 5% de la biodiversité marine. Cela peut paraître paradoxal, mais on connaît mieux l'espace qui nous entoure que le fond de nos océans. Alors va-t-on habiter dans l'espace prochainement, en 2030 par exemple ? Quelles seront les prochaines expéditions spatiales ? Jean-Jacques Dordain, directeur de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, répond à nos questions.
Les hommes seront de retour sur la Lune et les robots seront sur Mars. Je pense que ce sera un peu tôt pour les hommes sur Mars. Je pense qu'on sera sur la Lune. Et le point commun, c'est que ça sera en coopération. Ça sera la coopération entre plusieurs grandes puissances spatiales.
Est-ce que ce serait envisageable de faire un vol habité en direction d'un astéroïde ?
Oui, je pense que les astéroïdes, c'est plus facile même que d'aller sur Mars, parce que les astéroïdes sont plus accessibles, puisque et surtout, c'est plus facile d'en revenir, parce que la gravité est moins importante. Ceci dit, quel est l'intérêt d'aller sur un astéroïde ? Je n'en sais rien. Mars est très important, parce que c'est une planète sœur de la Terre, et on aimerait bien savoir pourquoi elle a évolué de façon différente de la Terre. On aimerait bien le savoir. Donc Mars est tout de même beaucoup plus intéressant, à mon avis, que les astéroïdes.
D'ici 2030, est-ce que le tourisme spatial, on va dire de masse, serait envisageable ?
Ça dépend ce qu'on appelle tourisme spatial. Je pense que des vols à quelques dizaines de kilomètres, oui, certainement. Mais ça n'est pas encore tout à fait le vol spatial, puisque pour passer 3 minutes à 100 kilomètres, il faut atteindre des vitesses de 1 à 2 kilomètres par seconde. Pour aller en orbite, il faut atteindre entre 8 et 10 km par seconde, ce qui est tout à fait différent d'un point de vue technologique. Envoyer des hommes pendant 2-3 minutes à des altitudes qui sont au-delà des limites de l'atmosphère et donc être dans l'espace, oui, certainement en 2030. Oui.
Que pensez d'un projet comme Mars One qui compte envoyer une colonie d'êtres humains sur Mars d'ici 2020 ?
Moi, je n'y crois pas parce que coloniser Mars en 2020, parce que pour envoyer des humains là-bas avec un seul aller simple, c'est pour coloniser Mars. Je ne suis pas sûr que 2020, ça soit encore la bonne époque pour coloniser Mars. Donc moi, je n'y crois pas. Je pense que des humains iront sur Mars, certainement après 2030, mais surtout, il faudra qu'ils puissent revenir.
Donc le premier satellite a été envoyé dans les années 60. Depuis cette époque, on en a envoyé de nombreux. N'y a-t-il pas un risque de pollution de l'espace ? Et cette pollution ne peut-elle pas gêner les prochaines opérations ou les prochains envois de navettes spatiales ?
Si, ça c'est un problème. C'est un problème, effectivement, qu'il y a des satellites qui ont pollué l'espace. Et je crois qu'il faut qu'on s'en débarrasse, puisque je pense que l'espace sera de plus en plus important pour la vie sur Terre. Et qu'il n'y a aucune raison de transmettre aux générations futures un espace pollué. Donc on y travaille pour pouvoir débarrasser l'espace de tous les débris qu'on y a laissés.
C'est la fin du Labomatique, merci de nous avoir écoutés et merci également à Frances et Noémie pour leurs aides lors des interviews. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce programme ainsi que les programmes précédents en podcast sur radiocampusrennes.fr. Quant à moi, je vous dis à une prochaine, salut à tous et soyez curieux.